des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission de notre série mensuelle des villes et des hommes. Alors nous allons aujourd'hui traiter de la question particulièrement d'actualité de l'économie circulaire, un sujet qui n'est pas des plus simples tant il invite à repenser globalement notre manière de produire et de créer de la valeur. Alors, pour commencer, il n'existe pas une définition de ce qu'est l'économie circulaire, il y en a plusieurs, mais elles ont toutes un point commun et je me suis penchée sur la définition qu'en donne l'économiste britannique Kate Raworth ou bien le philosophe français Dominique Bourg. Et le point commun, c'est que il s'agit de proposer une alternative au paradigme économique dit linéaire, c'est-à-dire que l'extraction de matières premières vierges en vue de produire des éléments à valeur ajoutée, destinés à être utilisés et puis malheureusement jetés, devient non soutenable dans une relecture contemporaine écologique de notre économie, de notre société. Alors, en droit français, la notion d'économie circulaire a été introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui vise à dépasser justement ce modèle économique linéaire. Et puis la Commission européenne a confirmé également cet objectif la même année, en décembre 2015, dans son paquet économie circulaire. Depuis, il y a eu des avancées et Nathalie Boyer est là pour nous en parler. Alors Nathalie, bonjour. Vous êtes directrice générale d'ORE, qui est une association de coopération inter-entreprises et intercollectivités locales sur l'environnement et qui est ambassadrice économie circulaire. Et Bruno Cahen, directeur Eiffage Démolition, qui représente d'ailleurs Eiffage au CEDRE. Le CEDRE, c'est le syndicat des entreprises de déconstruction, de dépollution et de recyclage. Bonjour à tous les deux. Alors première partie, les constats et les risques. Économie circulaire, c'est aujourd'hui.
Des villes et des hommes, le débat, première partie.
Alors Nathalie, quand on parle d'économie circulaire, quelle dimension cela recouvre-t-il exactement ?
En fait, quand on parle d'économie circulaire, souvent on parle de l'aval, on parle du recyclage, hein, des déchets. Or, en fait, il y a 7 piliers. L'amont est très important. Alors, je vous les cite rapidement. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les nouveaux modèles économiques. Alors, l'éco-conception, on connaît tous le concept, regardez les impacts tout au long du cycle de vie. Mais il y a aussi l'économie de fonctionnalité qui privilégie l'usage à la propriété. On connaît tous le Vélib. Il y a aussi l'écologie industrielle et territoriale qui permet à des entreprises sur un territoire, une zone d'activité donnée, de fonctionner entre elles comme des écosystèmes naturels. On va trouver la consommation responsable. Alors là, on est tous acteurs et tous concernés. L'approvisionnement durable, c'est-à-dire l'exploitation des ressources, qu'elles peuvent être forestières ou minières, en limitant les rebuts et les impacts négatifs sur l'environnement. L'allongement de la durée d'usage, on va trouver le réemploi. Hein, quand vous vendez un objet sur le bon coin, vous faites du réemploi. La réutilisation, il y a Renault qui utilise des pièces de moteurs anciens pour faire des nouveaux moteurs. Et la réparation. Et enfin, on arrive au fameux recyclage. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe, systémique et transversal que ce qu'on connaît d'habitude.
Alors merci Nathalie de l'avoir rappelé, parce qu'effectivement, dans la majorité des esprits, l'économie circulaire, c'est le recyclage.
Totalement.
Et on voit que c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on parle de l'aval, mais aussi de l'amont, et notamment de la façon de repenser complètement la conception des produits et des objets. Alors, parler d'économie circulaire, vous l'avez dit, c'est d'abord parler des pressions sur les ressources naturelles. Et cette question grave a donné naissance à diverses modélisations. Et en préparant cette émission, je lisais la théorie des 9 limites planétaires, hein, qui a été adoptée officiellement au niveau européen et international. C'est assez effrayant, mais ça a le mérite d'être clair. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette théorie, Nathalie ?
Oui, bien sûr. Elle est fondée sur 9 processus biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité de notre planète. Alors, je vais vous les citer. Il y a le changement climatique qu'on connaît tous, l'érosion de la biodiversité, dont on parle beaucoup puisqu'on est dans l'année de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, le changement d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et j'en finis avec l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. On sait déjà qu'il y a 4 de ces limites sur 9 qui ont été dépassées, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les sols, changement d'utilisation et la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore.
D'accord. Alors, c'est quand même assez effrayant. Nos auditeurs sont effectivement plus familiers du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. On commence à mieux diffuser aussi la question de l'artificialisation des sols, notamment avec l'introduction par le gouvernement d'objectifs de zéro artificialisation nette. Je rappelle quand même que le taux moyen d'artificialisation en France, c'est 20 000 hectares par an, hein, ce qui est quand même très supérieur à la moyenne européenne et qui augmente plus rapidement que la population. Bref, toutes ces limites additionnées montrent de façon absolument indubitable que nous consommons beaucoup trop de ressources par rapport à ce que les écosystèmes peuvent endurer, d'où le jour du dépassement de la Terre.
Oui, cette année, c'était le 22 août. C'est le jour qui marque le moment à partir duquel l'humanité a épuisé le budget nature de l'année. Autrement dit, l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire à un homme.
Alors Nathalie, j'ai envie de dire quand même que tout ça, c'est tellement énorme qu'on devrait s'améliorer. Vous parlez du 22 août, bientôt ça sera le mois de juillet, enfin, c'est quand même... Est-ce qu'on s'améliore ?
On ne s'améliore pas du tout. Le dépassement n'arrête pas de se creuser depuis 50 ans. Par exemple, en 1970, c'était le 29 décembre. On n'avait que 3 jours de décalage. En 2010, on était au 7 août. Alors cette année, ça a reculé de 3 semaines, mais c'est dû à la crise de la Covid, hein, puisque confinement généralisé, arrêt des industries. Mais c'est totalement temporaire. On sait que la Chine, en mars, avait baissé sa pollution dans l'air de 10 à 30%. Fin juin, c'était revenu au taux précédent. Et voilà, cette année, c'est 22 août versus 29 juillet en 2019. Les écologistes, les grandes organisations scientifiques nous interpellent en nous disant que le risque écologique lié à la reprise économique est énorme.
Alors Bruno, je me tourne vers vous. Quid de l'impact de l'extraction de matériaux dans le monde ? Là aussi, c'est en progression exponentielle ?
Bien oui, l'extraction de matériaux, donc en gros les ressources naturelles, hein, minérales, du sable, des roches par exemple, non renouvelables, contrairement au bois, a été multipliée par 3 en gros. Hein, au cours des 50 dernières années, on est passé, alors les chiffres ne vont pas dire grand-chose, mais d'une trentaine à 90 milliards de tonnes. Ouais. Voilà, donc les chiffres en tant que tels, non, mais multipliés par 3. Pourquoi ? Parce que l'humanité s'est développée et le développement des pays en Asie, en Afrique notamment, a conduit à un accroissement qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui à peu près 3% par an. Alors, histoire de fixer les choses, ça veut dire que, allez, en 30-40 ans, ça va encore plus que doubler. Là où je veux rester optimiste, c'est qu'en parallèle, le recyclage s'accroît aussi.
Alors, on connaît tous le cas dramatique de la surexploitation du sable, hein, qui est la deuxième ressource mondiale derrière l'eau à être surexploitée, avec maintenant carrément de la contrebande de ressources sablières, notamment sur le continent africain. Et ces tendances donc ne sont pas prêtes de s'assagir. Pardon, c'est ce que vous rappeliez à l'instant. Et de par ses activités, le BTP, du moins en Europe, a quand même pris conscience de ses impacts et est en train de renforcer sa vigilance par rapport à ces enjeux. Donc, quelle part le BTP prend-il dans ces défis ?
Le BTP, non seulement a conscience de ses enjeux et a démarré 2 axes de travail depuis quelques années, mais qui s'accélèrent en ce moment, même s'il nous reste du boulot. C'est-à-dire que ça s'accélère, mais pas encore partout au niveau mondial. Le premier, c'est être parfaitement conscient de ses impacts et éco-concevoir, c'est-à-dire dès la conception,
anticiper.
Penser sobre, anticiper, pour économiser les ressources. Et le deuxième axe, c'est le recyclage et donc la réutilisation. Ce qu'on a construit un jour, il va falloir le démonter. Et ce qu'on démonte, démolit, on le recycle. C'est vraiment ça l'idée, comme ça se fait de plus en plus pour les produits de la vie courante. Tout le monde connaît le verre, le bois, le carton, les plastiques, les voitures, les réfrigérateurs, ben pareil pour les maisons et les immeubles et les routes.
Alors, on a trouvé un chiffre en préparant l'émission. Alors, les chiffres sur à la fois la consommation intérieure française qui mobilise des matières premières, sont assez effrayants. On est quand même à 787 millions de tonnes en 2018. Et ce qu'il faut retenir, parce que comme vous le disiez, les chiffres, ce n'est pas forcément toujours très illustratif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la moitié de ces volumes sont dédiés aux matériaux de construction. Et si on se replace dans le contexte d'économie linéaire dans lequel nous vivons, ça génère bien sûr un volume de déchets considérable. Donc je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent que 2014, mais les entreprises du BTP en 2014 ont produit 225 millions de tonnes de déchets non dangereux. Alors ça, c'est sans doute l'un des aspects qui donne un peu d'espoir. Ces déchets ne sont pas dangereux et en fait, ils sont valorisables. Vous confirmez ces constats ?
Oui, tout à fait. Alors le nombre a encore un tout petit peu augmenté depuis, en volume hein, mais, ou en masse, mais le gros point qu'on n'a pas forcément les uns et les autres en tête, que je voudrais rappeler, c'est que sur un peu plus de 300 millions de tonnes de déchets, bâtiments et travaux publics, à 90%, c'est recyclable et en grande partie recyclé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup là-dedans de terre, de gravats, de bois et même parfois de plâtre ou de briques qui sont largement recyclables. L'idée, c'est de les recycler en circuit court ou en les remettant à la place de, en substitution à des produits neufs pour éviter d'extraire des matériaux de carrière, par exemple, ou le sable que vous évoquiez tout à l'heure de rivière ou de la mer.
Très bien. Alors, on en reparlera parce que je crois que ça nécessite une logistique quand même assez complexe. Alors, Nathalie, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'optimisme quand même et dire que les réponses qui sont aussi bien réglementaires que celles de la profession, puisque comme l'a dit Bruno, la profession se mobilise. Alors, est-ce que les réponses réglementaires et celles de la profession sont à la hauteur des constats ? Est-ce qu'on entre enfin, peut-on dire, dans l'ère de la préservation de la ressource tout en continuant à créer de la valeur ?
Alors déjà, on a de la chance. En France, on a une loi sur l'économie circulaire qui s'appelle la loi AGEC, qui est parue en février 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui répond quand même à quatre grands enjeux. Mieux consommer, parce que 53% des Français souhaitent consommer mieux et moins. Deuxième enjeu, endiguer la pollution plastique. Nous retrouvons beaucoup de plastique dans les déchets du second œuvre, notamment. Rendre le tri plus efficace. Les déchets du bâtiment sont aussi visés, puisqu'il y a dans cette loi beaucoup de choses pour lutter contre les décharges sauvages, notamment les inertes, et développer l'emploi local. Donc je trouve que déjà le fait d'avoir une loi en France est un premier pas très positif.
Tout à fait. Et nous approfondirons d'ailleurs cette question de l'emploi dans la dernière partie de l'émission parce que c'est important aussi de dire que l'économie circulaire peut créer énormément d'emplois. Je crois que sur l'emploi local, c'est plus de 300 000 qui sont visés.
Totalement.
Bruno, je me tourne vers vous. Une mesure phare concerne la refonte des objectifs de valorisation des déchets qui est fixée à 70% en 2020.
Oui, ben ça c'est un très bon objectif. Par exemple, aujourd'hui, les taux actuels de recyclage et de valorisation, sur les métaux, c'est 100%, et sur les bétons, c'est plus de 95% dans la partie bâtiment. Donc ce qu'on déconstruit, on le réutilise. Bois et plâtre, on n'est pas tout à fait encore au même chiffre. Le bois se recycle très bien, le plâtre aussi. Le problème, c'est la logistique, c'est-à-dire vous déconstruisez et il faut avoir un débouché. Donc le bois, il faut en faire soit du nouveau bois, soit le brûler pour faire de la chaleur, par exemple, ou de la vapeur. Et le plâtre, on refabrique du plâtre avec. Mais il n'y a que 6 usines en France. Or, les chantiers, ils sont partout sur le territoire. Donc, transporter, stocker, c'est ça le défi de demain pour augmenter le recyclage. Et le dernier point, ce sont les déchets aujourd'hui plus mal valorisés, pour lesquels il y a, en plus de la logistique, un défi technique. C'est-à-dire métaux, béton ou pierre et plâtre, il n'y a pas de défi technique, on sait faire. C'est une question d'économie et de logistique. Pour les autres déchets, on sait faire, mais pas à 100%. Donc il faut aussi innover, mieux recycler les plastiques et les isolants, par exemple. Et j'insiste lourdement, mais mettre en place les circuits de distribution, stockage, pour rediffuser dans la construction neuve ces matériaux recyclés.
Alors, un point, Bruno. En ce qui concerne les typologies de déchets, vous avez dit tout à l'heure que la plupart de ces déchets étaient non dangereux. Vous pouvez développer enfin, ce que vous appelez les DN, DNI. Les...
C'est barbare hein, comme
ça. Oui, c'est barbare.
Bon, c'est pas ni moi ni la profession qui l'a inventé. Hein, c'est une dénomination générale du ministère de l'écologie qui permet en fait, de classifier les déchets un peu partout. Donc, pour faire simple, il y a les déchets inertes. Par exemple, les terres, le caillou, le béton recyclé, ça c'est inerte. Inerte au sens où ça ne va pas réagir, ça
ne
va
pas se dégrade pas non plus.
Interagir dans l'environnement, ça ne se dégrade pas forcément. Ce sont des matériaux, s'ils ne sont pas à 100% naturels, hein, le béton, qui en tout cas sont assez proches et donc ne vont pas provoquer de dégâts majeurs dans l'environnement. C'est ça pour ça qu'on les appelle inertes. Et néanmoins, il est quand même important de les recycler et c'est fait à presque 100% aujourd'hui, plus de 95%. Ensuite, il y a les déchets qui ne sont pas dangereux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toxiques, si vous voulez. Ils ne sont pas toxiques pour la nature, ils ne sont pas toxiques pour l'homme et pour le vivant. En général, animaux, plantes. Ces déchets-là, les déchets dangereux, eux, doivent être éliminés dans des filières particulières. C'est-à-dire, on doit enlever leur toxicité. C'est un très, très petit volume, ça, dans le bâtiment. J'en parle pas aujourd'hui, c'est quelques pourcents. Il y a notamment des déchets d'amiante qui sont traités dans des filières spécialisées. Et j'en viens au cœur du sujet, les déchets qui ne sont pas inertes et qui ne sont pas dangereux non plus. Donc, on les appelle, par défaut, les non dangereux, non inertes. C'est quoi ? Plastique et bois notamment. Et c'est cela qu'aujourd'hui, on recycle allez, on va dire selon les cas, entre 20 et 70% et qu'il faut passer à 70% demain.
Très bien. Pour améliorer tout ça, vous l'avez déjà abordé rapidement, mais il y a un diagnostic amont qui est absolument essentiel pour anticiper et connaître exactement les ressources dont on peut disposer pour réaliser ce recyclage, ce réemploi, enfin toute cette chaîne de l'économie circulaire.
Tout à fait, parce qu'on pourrait croire, au vu de ce qu'on a dit jusqu'à présent, que c'est facile, il n'y a qu'une méthode générale à appliquer partout. Or, chaque construction est particulière, chaque chantier est particulier. Il y a des types de déchets qui diffèrent selon que vous ayez une construction des années 20, 30, 80, 90, vous avez de l'aluminium, du fer, du bois, des isolants d'une nature ou d'une autre. Vous avez presque toujours quand même du bois, du béton, enfin, il y a des constantes. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic précis pour vous dire, ben voilà, dans tel bâtiment qu'on va déconstruire, il y a tant de tonnes de bois, tant de tonnes de fer, tant de tonnes d'aluminium, tel équipement, je ne sais pas, 385 lavabos, 2500 portes, qu'on va pouvoir démonter et réutiliser.
Ça, et c'est démonter d'une manière spécifique, c'est ce qu'on appelle de la dépose sélective, c'est-à-dire oui. Que c'est comme ça sera reconditionné et réutilisé, évidemment, on ne casse pas.
C'est ça. Je vais vous prendre une image. Par exemple, le mobilier que tout le monde connaît, c'est, vous montez une cuisine chez vous, ou vous montez un meuble, une armoire, une chambre d'enfant ou autre. Quand vous déménagez, vous voulez pouvoir le démonter et l'emporter avec vous, et ben là, c'est la même idée. C'est comme si on déménageait, en quelque sorte. Donc, on va démonter et réutiliser les objets. Et la limite, aujourd'hui, de cette réutilisation, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est il faut que quelqu'un ait envie de l'utiliser. Quand vous déménagez, vous démontez, vous remontez à l'arrivée. Mais si vous passez d'une grande maison, les enfants sont partis, par exemple, et vous réaménagez dans un trois pièces, ben, vous n'allez pas pouvoir caser tous vos meubles. Là, c'est un peu la même idée. Quand on démolit un bâtiment, on va au préalable démonter ce qui est à l'intérieur et qui est valorisable, les meubles par exemple, lavabo, porte, fenêtre. C'est rare qu'on puisse les réutiliser pour construire le nouveau bâtiment. Pourquoi ? Les normes ont changé, d'une part, et d'autre part, le projet n'est pas forcément identique, pas la même surface, pas le même usage.
Bien sûr.
On peut faire des logements, il y avait des bureaux. Voilà pourquoi il faut d'abord trouver un usage, et ce diagnostic permettra d'anticiper et donc de mieux trouver des débouchés à l'avance.
Organiser une espèce de plateforme d'échange. Alors Nathalie, justement, je crois que la loi AGEC a introduit le concept de diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux, etc.
En tout cas, elle l'a amélioré. C'est l'article 6 de la loi, je vous le lis, hein, la gestion des produits, matériaux et déchets par le maître d'ouvrage fournit les infos nécessaires relatives à ces produits, ces matériaux et déchets en vue de leur emploi et de leur valorisation. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le diagnostic, ça concerne les démolitions et les réhabilitations lourdes de bâtiments d'une surface supérieure à 1000 m² et ou ayant accueilli une activité agricole ou des substances dangereuses. Mais demain, ça va aussi concerner les travaux de démolition et de réhabilitation significatives sous la responsabilité du maître d'ouvrage.
Très bien. Alors, merci pour ces précisions. Pardon. Alors, Bruno, le diagnostic peut donc aider à affiner le tri matière. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous voyez un format spécifique
Le format est libre, mais il y a quand même deux conditions, je pense, qu'il faut qu'on réunisse pour y arriver. Le premier, c'est que le diagnostic soit réellement technique, précis, réalisé sur le terrain par des personnels des experts, si vous voulez, qui ont été formés pour
d'accord,
ça.
Donc pas dans un bureau avec
voilà,
un logiciel dédié.
Oui, on voit bien. Mais c'est ça, c'est pas dans un bureau, pas par un automate ou un ordinateur qui, à partir de ratios, crache du papier ou voilà. En changeant juste la date et le nom du chantier. Voilà. On a tous en tête quelques exemples de choses dans lesquelles le DPE, par exemple, il y a de très bons diagnostiqueurs, mais il y a aussi des diagnostics qui sont faits à la va-vite sans que la personne connaisse le bâtiment. Ça, c'est vraiment le piège à éviter. Il faut un diagnostic par des gens qui connaissent, qui vont sur place et qui réellement analysent le dossier, pas 5 minutes en regardant et pondent un dossier.
Ça, c'est de la compétence et des emplois aussi.
Exactement. Oui. C'est de la compétence et des emplois. Il y a une vraie montée en compétences et donc ça, c'est un atout formidable pour avoir demain des emplois avec des gens qualifiés pour ce métier. Deuxième point, il faut que le maître d'ouvrage s'approprie le diagnostic. Il est responsable, ce que vous avez dit tout à l'heure, du taux de réemploi. Qu'il le traduise en objectif précis dans son cahier des charges, dans son projet, tant pour la démolition que pour la construction. Et à partir de là, les entreprises de travaux, dans leur réponse aux appels d'offres, pourront proposer des solutions intelligentes, innovantes, qui respectent ces objectifs fixés par le maître d'ouvrage, voire qui vont au-delà, ce que nous faisons parfois déjà, si le maître d'ouvrage l'accepte.
Alors, on va voir maintenant quelques exemples tout à fait caractéristiques et intéressants de mise en pratique de l'économie circulaire dans le BTP. Notre deuxième partie consacrée aux enjeux et aux opportunités de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie.
Effectivement, on vient de le voir, il y a des nouvelles expertises qui émergent. Et justement, je voulais que vous nous parliez de quelques exemples particulièrement intéressants que vous avez eu à traiter, à piloter sur Paris ou ailleurs, récemment ou pas récemment d'ailleurs, parce que je crois savoir quand même qu'il y a des pratiques qui remontent à plusieurs années.
Oui, alors pour le réemploi, la pratique massive, on va dire, se généralise récemment. Mais bon, ça fait bien longtemps que des biens avec un usage ou une valeur historique, un beau parquet ou autre, étaient démontés et réutilisés. À mon avis, il y a 100 ans, c'était le cas aussi. Je n'étais pas là, mais en tout cas, c'est depuis des décennies. Dans ce qui s'est élargi, par exemple, la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine, donc bar HLM, des mesures mises en place avec une vraie demande du maître d'ouvrage, de dire « moi je veux, dit le maître d'ouvrage, réutiliser les bétons et les briques ». Bon, les bétons, nous le faisons déjà, en standard. Les briques, une partie démontée, réutilisée, à 90% ont été valorisées. Par exemple, pour faire du béton de construction, du granulat par rapport au béton, et la brique, c'est plutôt du matériau qui sert à faire une sous-couche ou du remblai.
D'accord.
Mais il y a aussi du démontage soigné pour le réemploi. Des radiateurs en fonte, des portes, des extincteurs, même des choses comme des boîtes aux lettres assez inattendues, des luminaires, bien sûr, et des équipements sanitaires. Tout est démonté minutieusement par nos équipes, et nous travaillons ensuite avec des partenaires, par exemple la start-up Bacacia, qui fait de la mise en relation, et nous travaillons aussi souvent avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire, Réavi.
Très bien. Alors, Bacacia, finalement, c'est une espèce de plateforme en ligne qui met en rapport les gens qui cherchent, les gens qui proposent.
Pour faire simple, c'est Le Bon Coin, comme ça tout le monde connaît. C'est Le Bon Coin des professionnels pour le réemploi d'éléments, d'équipements qui ont été démontés. Il y a de tout là-dedans, radiateurs, portes, mais beaucoup de choses beaucoup plus exotiques. Je vous invite à les regarder, vous ferez une idée.
Des choses en plus, vous parliez de radiateurs en fonte tout à l'heure, qui finalement représentent pas mal de carbone. Et on comprend aussi, on n'a pas encore évoqué le sujet du carbone, mais finalement, l'économie circulaire, c'est aussi un des piliers d'une stratégie bas carbone en termes de construction-rénovation. Alors, vous m'aviez parlé, quand on a préparé l'émission, d'un exemple récent dans le 14e arrondissement de Paris. J'ai bien aimé, c'est un lieu emblématique que tout le monde connaît, c'est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
Voilà, c'est un ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul au cœur de Paris, enfin dans le 14e arrondissement, pour les gens qui viennent de plus loin. Là, l'idée, c'était deux choses. La première, c'est démonter, réemployer massivement. Donc là, vraiment très, très massivement. On a un grand entrepôt en sous-sol dans lequel nous avons pu démonter 700 portes, 300 fenêtres, 500 radiateurs, 18 000 mètres cubes de matériaux.
Oui, là, c'est carrément total, impressionnant.
Avec des éléments de structure, enfin, vraiment de tout. Là, ce qui était important, j'ai évoqué tout à l'heure la logistique. Nous avions un chantier très long, une année. Nous avions la place pour stocker au sous-sol, ce qui a laissé le temps à nos partenaires, dont Réavi par exemple, de venir désentreposer, évacuer à leur rythme. Et ça, c'est important parce que la plupart des chantiers, quand vous avez deux mois, vous démontez et soit il y a quelqu'un qui a un usage ou une plateforme comme Bacacia, soit malheureusement, si vous n'avez pas d'usage, d'usage immédiat, oui. ou quelqu'un qui peut stocker, entreposer, oui. Faire l'intermédiaire, ça veut dire que vous allez devoir, par exemple, la porte en bois, eh ben, tant pis, vous la broyez et elle part en recyclage bois. C'est quand même pas mal, mais c'est moins bien que de la réutiliser comme porte. En termes de CO2 notamment, effectivement, il est bien préférable de réutiliser la porte en tant que porte que de la broyer et de la retransformer, ce qui dépense de l'énergie et du transport plusieurs fois. Donc là, la vraie économie de CO2, c'est les circuits courts. Et le réemploi avec un minimum de transformation, c'est vraiment ça nos deux axes de travail.
C'est intéressant cette question du stockage temporaire et du foncier. On y reviendra tout à l'heure avec la plateforme Noé. Alors, je citerai également une très belle opération à Nice pour la Poste Immo, où vous avez démoli et recyclé 95% de la logistique du centre de tri de la Poste sur l'aéroport.
Oui, c'est un cas un peu particulier aussi, encore une fois, parce que quand le maître d'ouvrage est très volontaire, on va beaucoup plus loin. Recycler 95%, en gros, de la halle logistique. Ouais. Alors là, il y a des équipements, il y a de tout, même des transformateurs, des équipements lourds, plus des pièces plus simples, comme celles que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, pour l'anecdote, un petit parking à vélo, par exemple, qui a été réutilisé.
Alors, vous êtes d'accord, vous l'avez dit, pour confirmer que ces nouvelles pratiques professionnelles entrent dans la chaîne vertueuse des économies de carbone. Je crois que le CEDRE, le syndicat professionnel que vous représentez aussi aujourd'hui, a réalisé une étude tout à fait surprenante sur l'empreinte carbone de la valorisation des déchets de chantier en France.
Oui, parce que l'objectif était, cette étude a été réalisée d'ailleurs en partenariat avec, entre autres, l'ADEME, hein, pour avoir des facteurs d'émission qui aujourd'hui sont valorisés et entérinés par l'ADEME, de manière à ce que ce soit reconnu. Ce n'est pas une étude uniquement du bâtiment. C'était de se dire, recycler, ça économise du carbone, d'accord, mais combien? Et concrètement, ce qu'il apparaît, c'est que le fait de recycler économise du carbone par rapport à extraire du matériau neuf, béton, bois, un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui pèse très lourd, c'est le transport. C'est-à-dire que si vous démolissez votre béton, vous le transportez une première fois sur une plateforme de tri pour le concasser, une deuxième fois pour le mettre sur un stock, une troisième fois pour l'amener sur une centrale à béton et une quatrième fois sur le chantier de construction. En termes d'empreinte carbone, c'est pas terrible.
Oui,
en termes d'économie matière, c'est parfait, mais en termes de carbone, c'est pas top. Donc l'idée, encore une fois, c'est plus on anticipe, plus la chaîne logistique peut être courte, moins de transport, sur une distance moins grande. Et ça, en termes de carbone, c'est top.
Oui, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'un modèle global qui puisse absorber les coûts de dépôt sélectif par des valorisations au sens large qui soient vraiment bénéficiaires, le tout dans le circuit court et la chasse au carbone. Alors, selon l'ADEME, alors on a trouvé quelques chiffres intéressants quand même. En 2016, la France incorporait 60 millions de tonnes de matières recyclées en incluant les granulats. C'est quand même assez impressionnant. L'acier et la fonte représentent 49% des matériaux utilisés dans la production. Quand elles sont recyclées, excusez-moi, acier et fonte recyclées. Mais vous le disiez tout à l'heure, les métaux en général, ça se recycle bien, ça vaut de l'argent. Et donc le recyclage est déjà bien ancien. Et le taux du verre recyclé, par contre, n'est que de 58%. Là, je pense qu'on a encore pas mal de progrès à faire. Je crois que notamment les vitres et les façades sont moins recyclé que le verre de consommation courante.
Oui.
Là, c'est là qu'on voit les consommateurs actifs dont vous parliez tout à l'heure. Alors, je voulais évoquer un sujet sur justement le recyclage des bétons. On a un exemple tout à fait surprenant, c'est sur l'écoquartier La Vallée, à Châtenay-Malabry, sur le site de l'ancienne école centrale en lisière du parc de Sceaux. Donc c'est un futur écoquartier d'une vingtaine d'hectares qui a le label écoquartier étape 2 de la démarche ministérielle. C'est la construction pour environ 5000 habitants d'un nouveau pan de ville avec des services, des commerces, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que donc c'est Eiffage qui a obtenu cet appel d'offres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est engagé à recycler 100% des gravats qui sont issus de la démolition du bâtiment d'école centrale. Alors, soit en sous-couche de voirie, ce qui est quand même assez classique, les deux tiers de ces gravats issus de la démolition de l'école sont réutilisés en sous-couche de voirie, et un tiers dans les bétons neufs. Alors, déjà, première chose, 100% des gravats démolis sur le site sont réutilisés sur le site. Bon, déjà, moins de transport, c'est ce que vous indiquiez, moins de rotation de camions, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de gêne pour les riverains. Et puis, également, une technique tout à fait révolutionnaire, la recarbonatation des bétons. Pour nous en parler, Christian Clergue, directeur du département Innovation, Représentation Matériaux d'Eiffage Génie Civil.
Christian Clergue, bonjour.
Bonjour.
Une première question pour vous, Monsieur Clergue. Pourriez-vous expliquer ce qu'est le processus de recyclage des bétons et ce qu'il comprend, un processus qui est mis en place notamment sur le chantier de l'écoquartier de Châtenay-Malabry?
Oui, tout à fait. Alors, le recyclage, principalement, c'est d'abord de l'acte de déconstruire des bâtiments. Et c'est ce que nous avons fait sur le quartier de Châtenay-Malabry. Et déconstruire, c'est aussi déconstruire et trier. Donc, en fait, ce sont des constructions propres, de telle manière à traiter les matériaux de manière différente, en particulier les matériaux béton. Et sur ce chantier, sur les 50 000 m3 de granulats que nous avons pu obtenir par concassage, deux tiers de ces matériaux ont été utilisés, ils sont prévus pour être utilisés pour la VRD, et le tiers restant, environ 18 000 m3, vont être utilisés pour être utilisés à la construction et faire de nouveaux bétons directement.
Est-ce que, par exemple, ce processus de recarbonatation intervient là-dedans pour faire justement de nouveaux bétons?
Alors, le processus de recarbonatation, oui, le processus de recarbonation va réintervenir sur ce chantier, sur une partie des matériaux, puisque on va utiliser ce processus assez unique pour le moment, puisque il est encore en phase de recherche. C'est une recherche que l'on mène d'ailleurs avec l'université Gustave Eiffel. La recarbonatation, c'est le principe de réintroduire du CO2 dans le béton. CO2 qui va être capté et va permettre de donner aux matériaux de nouvelles caractéristiques, en tout cas va permettre de leur permettre d'être plus facilement réutilisables en fait dans le béton. Le principe qui est recherché, c'est l'introduction de ce CO2, et on estime que les granulats que l'on a produits devraient capter entre 50 et 100 kg de CO2 par tonne de granulats traités. Voilà.
Et l'idée à la fin, c'est d'en faire un béton plus efficace.
Alors,
plus...
En fait, l'idée, c'est que le matériau déconstruit, qui a déjà un certain âge et qui, du coup, a des fractures, des surfaces fraîches, ce qu'on appelle des surfaces fraîches, et a une capacité à prendre un peu trop d'eau, par le fait d'être recarbonaté, il a une fermeture des pores, et donc c'est un matériau qui devient moins absorbant en l'eau, et donc on retrouve un comportement de matériau beaucoup plus traditionnel qu'on connaît, qui est le sable et le granulat classique que l'on sort directement des terres ou des carrières.
Et à votre avis, Monsieur Clerc, quelles mesures réglementaires ou autres permettraient d'augmenter significativement l'utilisation de granulats recyclés?
Alors, ça c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui avant tout est économique, dans la mesure où sur beaucoup de chantiers, le fait de déconstruire entraîne de toute façon un surcoût lié à la déconstruction et au transport des matériaux par rapport aux granulats naturels. Et donc pour revenir à un équilibre financier et économique, il faudrait que la manière de traiter ces matériaux nous permet de les réutiliser beaucoup plus rapidement. Et peut-être que la recarbonatation, même si elle rajoute une phase sur le traitement du matériau, pourra nous permettre de les réutiliser de manière beaucoup plus facile, parce que du coup, on se retrouvera à des matériaux beaucoup plus traditionnels, en tout cas qui répondent à des normes déjà connues.
Eh bien écoutez, Christian Clerc, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour cette émission spéciale Économie circulaire des villes et des hommes sur Radio Immo.
Alors, après les propos de Christian, alors, il y a un autre exemple dont on vous avait déjà parlé d'ailleurs rapidement dans l'émission consacrée aux routes du futur. C'est une étonnante technique qui permet aux industries de la route, qui se sont lancées depuis de nombreuses années dans une chasse au carbone et une chasse au bitume aussi, dont elles étaient trop dépendantes. FH Route a déposé il y a 2 ans maintenant un brevet tout à fait étonnant qui est vraiment une illustration d'écologie industrielle et territoriale. Il s'agit ici de récupérer les déchets des papeteries des Landes, notamment la fabrication du papier kraft. Et ce déchet nous permet de créer un liant hydraulique qui a le label biosourcé. C'est le seul liant hydraulique routier en France à avoir obtenu en mai 2019 un label biosourcé. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on régénère la route à 100%, on récupère le vieux granulat, on le décolle, on le concasse, et le vieux bitume est régénéré non pas par du bitume neuf, il y a zéro bitume neuf qui rentre dans cette technique, mais c'est le liant végétal à base déchets issus des papeteries qui vient régénérer le vieux bitume et on repose derrière la route. Alors c'est assez étonnant quand on le dit comme ça, parce qu'en plus, figurez-vous que c'est 10% moins cher qu'une route neuve, notamment parce qu'on ne va pas chercher de granulats neufs et donc toute cette logistique qui a été décrite à plusieurs reprises n'intervient plus dans ce procédé. Il n'y a pas de rotation de camions qui vont chercher des granulats dans des carrières plus ou moins éloignées. Donc ça s'appelle Recital Arme et c'est assez épatant. Alors justement Nathalie, je voulais vous entendre sur cette démarche d'écologie industrielle et territoriale qui a été initiée dans un premier temps dans le sud-ouest, et c'est pas pour rien d'ailleurs que les premiers tests de Recital ont été faits dans le département de la Gironde et le département de l'Hérault. Comment ça fonctionne l'écologie industrielle et territoriale ?
L'écologie industrielle et territoriale, ça fonctionne à partir de synergies. Là, vous venez d'en citer une. On a deux types de synergies. Des synergies de substitution, c'est-à-dire quand un déchet d'une entreprise peut servir de sous-produit à une autre entreprise de proximité. Alors, on peut créer une activité intermédiaire entre l'entreprise A et l'entreprise B. Ça crée des emplois locaux. Ce n'est pas obligatoirement autour des déchets, ça peut être aussi autour de l'eau, de la matière, de différentes matières, de l'énergie. L'énergie fatale, par exemple, que la plupart des usines rejettent dans l'air, peut être utilisée par des usines de proximité. Et il y a aussi d'autres types de synergies dans l'écologie industrielle et territoriale qui sont ce qu'on appelle les synergies de mutualisation. Par exemple, vous pouvez faire des achats groupés à plusieurs entreprises sur une zone d'activité. Les économies que vous avez avec le fournisseur d'énergie peuvent être, et on l'a déjà vu dans des zones d'activité, peuvent être posés dans des programmes environnementaux, de rénovation thermique, des entreprises qui ont adhéré aux achats groupés. On peut partager des équipements, des stations d'épuration, de la gestion collective des déchets, des services. Il y a beaucoup de belles activités à faire autour d'écologie industrielle
et territoriale. Qui nécessite du décloisonnement aussi, qui nécessite du dialogue. Et justement, je crois que vous avez fait beaucoup de travail chez Auré sur ces sujets pour rapprocher les acteurs, les amener à s'ouvrir à toutes ces opportunités de l'écologie industrielle et territoriale. Vous pouvez nous parler du référentiel Ellipse ?
Oui, vous soulevez l'animation. C'est vrai que les démarches d'écologie industrielle et territoriale sans animateur ne perdurent pas. Il faut qu'elles aient une temporalité assez forte et assez longue pour qu'elles puissent se mettre en place, parce qu'on met quand même des contrats un peu complexe en œuvre. Et Ellipse a permis aux animateurs de ces démarches de faire une auto-évaluation de leur démarche d'écologie industrielle et territoriale avec 61 indicateurs, des qualitatifs, des quantitatifs. Ça permet aussi aux financeurs, qui sont les ADEME et les régions, de regarder comment se passent les démarches qu'ils ont mis en œuvre et qu'ils ont financées. Ce référentiel Ellipse, il a permis de faire une cartographie. Alors, vous la trouverez sur le site d'Auré. Hein. Tout est ouvert sur le...
En accès libre,
en allant s'inscrire sur Ellipse. Une cartographie par niveau de maturité, parce qu'on peut avoir des démarches qui viennent de démarrer, des petites non matures, jusqu'à des démarches qui sont vraiment là depuis plusieurs années. On a 106 démarches qui sont évaluées en écologie industrielle et territoriale sur Ellipse. On en compte à peu près 120 en France. Ça nous a permis aussi de faire un rapport sur la pérennité de ces démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et pour regarder la pérennité, on a trois grands axes. La gouvernance. Important d'avoir un portage politique fort si on veut oui, là aussi que ça marche, parce que chaque fois qu'il y a une élection, ça peut repartir en arrière. Les activités, les résultats de ces fameuses synergies, évidemment les modèles économiques, parce que ces démarches sont subventionnées au départ, comme je vous disais, par les ADEME et les régions, oui. Mais quid après de trois ans de fin de subvention, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les entreprises qui peuvent mettre au pot? Quelles sont les économies réalisées? Juste un dernier chiffre sur cette étude. On s'est aperçu que 50% des entreprises engagées dans ces démarches avaient créé de nouvelles opportunités de marché. Donc, écologie industrielle et territoriale et développement économique, ça
oui,
va ça, bien ensemble.
Ça, je pense que c'est le cercle vertueux aussi de l'économie circulaire, parce que comme on réinterroge tout le modèle linéaire, forcément, on est obligé de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et donc, il peut y avoir de nouvelles créations de valeur et de nouveaux emplois et de nouvelles compétences qui émergent. Alors, il y en a une notamment qui s'appelle l'upcycling. Alors, pardon pour l'expression, c'est une solution qui permet de transformer un objet en vue d'un autre usage et qui permet donc de conserver sa matérialité d'origine tout en lui donnant une nouvelle valeur, voire une plus forte valeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'upcycling, Bruno ? Je crois que vous avez un bel exemple en tête.
Alors, l'upcycling, c'est recycler en tirant vers le haut la valeur, oui. Comme vous l'avez dit, Valérie. Par exemple... B3E Eco-Design, ça ne va pas voilà, parler. C'est quoi ? C'est des conteneurs maritimes recyclés pour faire des habitations. C'est le principe de l'upcycling. Vous sortez du cadre. Un conteneur maritime, c'est quelque chose de très costaud, très solide.
Très qualitatif au départ, oui.
Très qualitatif, très normé. C'est fait pour résister du transport sur la mer, avec des tempêtes, et transporter des objets fragiles ou précieux. Pensez à le réutiliser dans le bâtiment. Voilà, ça, on est en plein dans l'esprit de l'upcycling. En respectant toutes les normes de confort... de normes thermiques, et c'est ça qui est, au niveau du label allemand, par exemple, Passive House, l'exigence de la norme dans l'upcycling, c'est ça qui fait la valeur, et c'est ça qui fait penser hors du cadre et crée une nouvelle économie viable qui vit sans subvention.
Alors c'est assez extraordinaire parce que finalement quand on dit aux gens on va créer une maison contemporaine design avec des containers, ils se disent mais ça va pas, je vais pas mettre ma famille là-dedans. Alors qu'en fait c'est extrêmement confortable, on atteint des niveaux de performance énergétique et thermique extraordinaire, vous l'avez dit vous-même, le label allemand Passive House qui est quand même très exigeant. Donc la qualité est au rendez-vous et ça, c'est juste incroyable. Il y a autre chose que ton rendez-vous, c'est aussi la rapidité de chantier.
Et oui, mais c'est ça, c'est assembler 36 logements, 103 containers, tout ça en 7 mois. Aller faire 36 logements en 7 mois en construction traditionnelle, très compliqué. Et en plus, c'est modulaire. C'est-à-dire que les conteneurs, vous pouvez agrandir...
Et
avoir
vous pouvez
une
démonter
diversité,
aussi.
Exactement, j'y venais. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est modulaire au démontage. Ce sera beaucoup plus facile à démonter et recycler, mais là, j'anticipe. Laissons les gens habiter dedans pour le moment.
Alors, c'est très beau. Hein. Vous pouvez voir sur le site internet de B3 Eco-Design, vous verrez des exemples en France, notamment dans l'Ouest, parce que ces gens-là sont à Rennes. C'est assez incroyable. J'avoue que moi, j'irais bien. Hein. J'achèterais bien une maison maison B3 Eco Design, puisque c'est vraiment très beau. Alors, vous l'avez dit à travers les exemples que vous mentionnez, Bruno, on s'interroge dès l'amont sur la manière de travailler. Du coup, troisième partie, repenser les projets dès l'amont.
Des villes et des hommes, le débat, troisième partie.
Alors, pour stimuler l'éco-conception en amont et réduire la production de déchets, le législateur a prévu des nouvelles modalités qui sont rassemblées sous une expression, la REP. La REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. Alors, Nathalie, notre ambassadrice économie circulaire, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la REP sectorielle bâtiment qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 ?
Oui, avant de parler de la REP bâtiment, je vous parle de la REP un peu en général.
Okay.
Elle existe dans la loi française depuis 1975 et on est quand même les champions en France. On a 14 filières REP, donc oui. Je pense que c'est pas mal. La loi AGEC va en introduire des nouvelles. On a parlé des déchets plastiques, il faut les récupérer. C'est pour ça qu'elle va en créer autour des jouets, du sport, des loisirs, des articles de bricolage et de jardin. Mais il y a cette fameuse REP bâtiment qui va voir le jour. L'intérêt de cette REP, c'est d'organiser la reprise sans frais sur tous les points du territoire des déchets de chantier triés, donc avec un grand maillage territorial. Ce n'est pas une REP juste pour une filière, c'est pour tous les métiers. Elle est transversale et c'est ça sa nouveauté.
Très bien.
Pour ceux qui ne connaissent pas les REP, c'est quand même la responsabilité élargie des producteurs. Ça permet aux metteurs en marché d'organiser la collecte de leurs déchets et s'occuper de la gestion de fin de vie.
Donc on est vraiment dans l'anticipation.
Mais ce qui est intéressant avec la loi AGEC, c'est qu'elle introduit une dimension nouvelle du rôle de ces éco-organismes, hein, parce que les REP sont gérés par des éco-organismes. Hein, quand vous achetez une machine à laver, vous payez une petite éco-contribution. C'est ça qui finance les éco-organismes et donc le recyclage. C'est pareil ça sera pareil certainement pour les déchets du bâtiment. L'intérêt, c'est que les compétences de ces éco-organismes vont évoluer vers l'éco-conception, donc vers l'amont, vers le réemploi, la réparation et l'intégration de matières premières recyclées dans les produits. Avant, on était encore sur l'aval dans les filières REP, beaucoup sur le recyclage. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Alors, merci. Alors, Bruno, quelles sont les conséquences, selon vous, pour votre métier de démolisseur, déconstructeur plutôt, de l'introduction de cette REP à partir du 1er janvier 2022 ?
Je pense qu'il y a deux réponses principales. La première, c'est que ça va accélérer les pratiques actuelles de déconstruction et les généraliser. C'est-à-dire que ça peut aider les artisans, les TPE, les PME, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens financiers, logistiques et humains, à intégrer ces pratiques nouvelles qui sont, il est vrai, un petit peu plus complexes, un petit peu plus chronophages et aussi un petit peu plus chères. Et l'intégration de ces matériaux dans les matériaux de construction de demain, là aussi, ira dans le bon sens, c'est ce que disait Nathalie. Deuxième axe, promouvoir le réemploi et le généraliser en développant, grâce à finalement un levier financier et une obligation réglementaire de taux de réemploi minimum, créer ce fameux réseau de distribution aval et créer ce modèle économique qui, en gros, aujourd'hui, sont nos deux chaînons manquants pour accélérer.
Très bien. Alors justement, en préparant cette émission, et j'en parlais rapidement tout à l'heure, nous avons visité une initiative territoriale absolument bluffante, si vous me permettez l'expression, dans Bordeaux Intramuros. C'est une plateforme logistique mutualisée de services de chantier. Ça s'appelle Noé et ça comprend un éventail de services très large, utiles aux différents types de chantiers urbains, depuis l'artisan jusqu'au grand groupe. Ça fonctionne par abonnement. La grande particularité, c'est qu'on utilise un foncier urbain, vraiment intramuros, dédié à cette logistique de chantier. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, c'est qu'il faut aussi un contrat fort, avec un contrat de confiance, si je puis dire, avec les autorités publiques qui vont pouvoir mettre à disposition ce foncier urbain. Il faut dire qu'à Bordeaux, on a plus de 10 ans de chantier en vue, hein, entre la rénovation bâtimentaire, le génie civil. Il y a beaucoup de chantiers. Et à la fois pour la fluidification de ces chantiers en ville, l'acceptabilité pour les riverains, les commerçants, puis la réduction des rotations de camions et de la congestion associée. Noé est né de cela. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'était de proposer ce foncier dédié au stockage et tri stockage temporaire et tri des déchets, valorisation de matière, mais aussi formation, insertion, intérim, restauration, outillage, consommable, engin. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est unique en France. C'est le seul projet qui ne soit pas un bâtiment ni un écoquartier qui a reçu le label démonstrateur industriel de ville durable. Les pouvoirs publics montrant par là que finalement, cette logistique mutualisée et bas carbone de chantier était elle aussi au cœur de la ville durable. Alors bref, une plateforme d'économie circulaire qui part du déchet en cœur de ville. À l'inverse, On a interrogé Mineka. Alors Mineka, c'est aussi une plateforme, mais elle part du réemploi. C'est une plateforme de réemploi qui a déjà 4 ans d'existence, elle a été créée en 2016. Elle collecte les matériaux destinés à être jetés par les professionnels du BTP et les redistribue à des tarifs très avantageux sur sa plateforme. Donc plus largement, l'objectif, c'est de démocratiser aussi. Vous parliez tout à l'heure aussi des artisans. C'est de les emmener dans cette pratique de réemploi de matériaux avec une matériothèque carrément très, très développée. Alors, on a interviewé pour ce faire une architecte qui est fondatrice, cofondatrice de Mineka. C'est Joanne Boichon.
Joanne Boichon, bonjour. Comment vous voyez l'utilisation, l'apport du réemploi dans l'évolution de votre métier ?
Je pense que... De par l'expérience que j'ai depuis le montage de Mineka, on est de notre côté de plus en plus sollicité par des architectes qui se questionnent sur cette question-là, sur cette pratique, la pratique du réemploi, qui ont des interrogations très très techniques. Et ça démontre le fait que de plus en plus d'architectes ont envie d'inclure des matériaux de réemploi dans leurs projets. On va avoir de plus en plus de matériaux de réemploi dans les futurs projets. Et j'ajouterais à ça que les maîtrises d'ouvrage aussi commencent à être demandeuses et on voit sortir des appels d'offres avec des demandes, des préconisations de matériaux de réemploi dans les projets.
Comment vous en êtes arrivé à créer cette plateforme, cette association ? Est-ce que c'est par vos diverses expériences dans le passé ? Est-ce que c'est par un constat, un ressenti, par conviction personnelle ? Je ne sais pas.
Alors c'est un mix de plusieurs choses, mais en fait, moi j'ai un master spécialisé en architecture environnementale et je voulais me diriger dans la pratique du réemploi en tant qu'architecte. En 2016, j'ai fait une formation, ma formation d'habilitation de maîtrise d'œuvre en mon nom propre, durant laquelle j'ai créé un mémoire professionnel en partie sur le réemploi et j'ai interrogé les sachants de la pratique de l'époque et ainsi que le secteur du déchet, le secteur de l'économie sociale et solidaire et aussi des particuliers qui avaient construit en réemploi. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est que beaucoup de monde voulait développer cette pratique, notamment les architectes, mais que à l'époque ça restait encore compliqué parce qu'il n'y avait pas d'endroit où se fournir en matériaux de réemploi. Et donc, avec mon diplôme en poche, j'ai fait le constat que j'allais être confrontée au même problème. Et l'idée a paru de retourner le problème et de créer un endroit où se fournir. Et donc c'est comme ça que Mineka a été créée face à ce constat.
Face à ce constat premier que vous avez pu rencontrer, que vous avez donc créé l'association Mineka. Eh bien écoutez, Joanne Boichon, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Radio Immo pour cette émission « Des villes et des hommes ». À bientôt.
Alors, on le voit, hein, le contexte sociétal est quand même très favorable à l'économie circulaire. On a parlé à plusieurs reprises de montée en compétences, de nouveaux services, de création d'emplois. Nathalie, quelles sont les perspectives d'emploi dans l'économie circulaire ?
Alors déjà, l'économie circulaire va être créatrice d'emplois. Je veux juste vous citer un chiffre. L'ADEME évaluait en 2013 que le démantèlement et le réemploi d'une tonne de matière fournissait 50 fois plus de TP qu'une
ETP,
tonne...
équivalent temps plein.
Merci. Voilà. Que pour une tonne de déchets mise en décharge. Donc on sait par contre que certains emplois liés à des activités qui s'appuient sur des ressources non renouvelables vont décliner. Mais on a quand même des chiffres très positifs. L'Union européenne, enfin la Commission européenne a fait une étude montrant que 700 000 emplois devraient être créés en Europe d'ici 2030 avec un accroissement du PIB de 0,5%. La loi AGEC elle-même parle de 300 000 emplois locaux. Donc c'est pas rien.
Oui, et c'est important que vous le disiez, c'est que ça contribue au PIB. Il ne s'agit pas d'emplois, excusez-moi de le dire clairement, bas de gamme. On est bien dans des emplois à compétences et des emplois à création de valeur.
Totalement. Il va y avoir les nouveaux modèles économiques qui vont créer pas mal d'emplois, comme l'éco-conception, l'économie de fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale dont on a parlé, le réemploi. Et pour les métiers du BTP, il y a diagnostiqueur déchets, ressources, ainsi que les métiers liés à la valorisation des déchets du bâtiment.
Alors Nathalie, je vais vous faire sourire. En préparant cette émission, on a interviewé un conducteur de travaux. Il nous a dit « L'économie circulaire, c'est comme passer du métier de boucher au métier de charcutier ». Bruno, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était quelqu'un de chez vous qui nous a dit ça.
Ah oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on prend l'image jusqu'au bout, ça veut dire que le boucher, il coupe de la viande, le charcutier, il la transforme et il vend des produits finis avec plus de valeur ajoutée. C'est pas moins ou plus noble, c'est différent, mais ça demande des compétences nouvelles. Donc ces compétences nouvelles, nous les identifions identifions, et tant dans la fédération, le CEDRE, affilié à la Fédération du bâtiment, nous travaillons à la qualification professionnelle pour ouvrir à tout le monde cette possibilité. Et en interne, dans des groupes comme EFAGE, nous formons bien sûr nos propres personnels par compagnonnage sur nos chantiers.
Alors, nous avons souhaité interroger un acteur déjà ancien de l'économie circulaire et qui est totalement inscrit dans la logique solidaire que vous évoquiez, Nathalie, c'est le réseau Envie.
Nesrine Dany, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du département Nouveaux Projets à Paris en Ile-de-France pour la fédération Envie. J'ai une première question sur un projet, un écolieu solidaire et associatif du côté de Ménilmontant à Paris. Est-ce que vous pouvez le décrire en quelques mots ?
Oui, donc Envie le Labo est un projet qui est porté par la fédération Envie. Envie, c'est un acteur associatif qui est pionnier dans l'économie circulaire depuis 1984. Donc le projet Envie le Labo, vous l'avez dit déjà, c'est un écolieu qui est situé à Paris dans le 20e arrondissement et qui vise à apporter des solutions concrètes aux citoyens pour leur permettre d'évoluer vers des modes de vie, des modes de consommation éco-responsables. Le lieu va proposer de la vente d'appareils électroménagers rénovés dans nos ateliers à Trappes, des services de réparation et de dépannage à domicile et des ateliers pratiques gratuits de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage. Donc Envie le Labo, c'est aussi un bâtiment qui de 550 m² qui a été construit par la Fédération Envie dans l'objectif d'être vraiment le reflet de nos valeurs environnementales. Le bâtiment, il est en ossature bois avec une toiture végétalisée et définition brute. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts pour privilégier autant que possible le réemploi et la réutilisation de matériaux et de mobilier dans le cadre de son aménagement. Donc ça a été un très gros travail de sourcing qu'on a fait en Île-de-France pour pouvoir trouver des portes, des poignées, des lavabos, des radiateurs, des sols, des chaises, etc. On a voulu mener un bilan de circularité pour évaluer un peu cette démarche. Et ce bilan a conclu qu'on avait pu éviter d'avoir recours à 20 tonnes d'éléments neufs, ce qui représente 45% des matériaux, du total des matériaux et objets qu'on aurait utilisés dans le cadre de cet aménagement intérieur.
Bah justement, ça m'amène à ma deuxième question. Comment on pourrait définir ce lien entre économie circulaire d'un côté et économie sociale et solidaire de l'autre ?
Le lien entre économie sociale et solidaire et économie circulaire, il est évident pour Envie, mais il n'est pas évident dans l'absolu pour tous les acteurs de l'économie circulaire. Nous, notre mission première historique, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont en difficulté vers le retour à un emploi durable. Nos activités d'économie circulaire qui sont le réemploi et le recyclage s'y prêtent particulièrement parce que elles requièrent du personnel pour aller collecter, trier, réparer, vendre. En fin de parcours, pour les publics qu'on accompagne, ils vont acquérir des compétences qui sont particulièrement recherchées et qui vont leur permettre donc d'améliorer significativement leur employabilité vers des métiers qui peuvent être notamment ceux de technicien réparateur ou de chauffeur livreur. Donc c'est des métiers qui sont, comme vous devez le savoir, très en tension.
Eh bien écoutez, Nesrine Dany, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Radio Immo pour cette émission spéciale des villes et des hommes, spéciale justement économie circulaire. Je rappelle que vous êtes la directrice du département Nouveaux Projets à Paris en Ile-de-France pour la Fédération Envie.
Alors, on l'a vu tout au long de l'émission, il y a une effervescence sur tous ces sujets, à la fois chez les professionnels du BTP, chez les acteurs d'économie sociale et solidaire. On a vu l'ampleur des initiatives diverses et variées qui peuvent être prises. J'avais envie, en conclusion, parce que ça serait quand même illusoire de pouvoir résumer tout ce qui a été dit, de laisser la parole aux législateurs. Pourquoi ? Parce que cette effervescence, elle bénéficie d'un cadre attractif, l'AGEC, mais elle va bénéficier aussi d'un coup de pouce extraordinaire au niveau de l'Europe. Et je voudrais vraiment finir sur ce sujet. On va écouter François-Michel Lambert, qui est député des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut national de l'économie circulaire.
Une première question, monsieur Lambert, elle concerne cette loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Si vous en aviez la possibilité, qu'ajouteriez-vous à cette loi pour en augmenter, disons, encore plus son efficacité ?
je vais être un peu critique sur cette loi. C'est quand même une loi qui reste sur un modèle de recyclage et de gestion de la pollution, visuelle surtout, mais pas une loi qui repose les fondamentaux de notre modèle de développement qui est adossé à une surconsommation de ressources par rapport au stock disponible. C'est une étape sur un chemin qui est à bâtir. Continuons, chaque pas compte, et là, on a un pas qui compte.
Ça va dans le bon sens, mais il faudrait que ça aille plus fort et plus vite, c'est ça?
Il faudrait peut-être pas plus fort, plus vite, parce que si vous allez trop fort et trop vite, vous cassez, et donc c'est pire. Par contre, poser des objectifs sur la consommation de ressources vierges, créer des contraintes, il faut le dire, en perspective. Par exemple, on pourrait dire en 2030, on ne peut plus consommer plus que tant de milliers de tonnes de métaux stratégiques, amènerait les acteurs économiques à savoir qu'on va rentrer dans de la rareté, et donc à repenser leur modèle pour continuer à créer de la croissance de biens communs, nous en avons besoin. Les chiffres de la pauvreté sont là pour nous rappeler que il faut trouver de la puissance économique pour répondre à ces enjeux de pauvreté. Mais cette croissance, elle ne se ferait plus sur un gaspillage de ressources mal ou peu utilisées, mais plutôt sur un meilleur usage, une efficience de ces ressources, créer plus de richesses à tonnes de ressources identiques mobilisées. C'est ça l'enjeu de main. Comment on peut créer plus de richesses sans prendre plus de ressources dans la nature?
Je vais vous poser une question, monsieur le député, sur un autre sujet, sur la taxonomie verte européenne. Je le rappelle pour nos auditeurs, elle entrera en vigueur en 2022. Alors la taxonomie, c'est quoi? C'est un outil de classification des activités économiques européennes en fonction de leur contribution aux objectifs de développement économique durable. Question donc, monsieur le député, est-ce que vous pensez qu'un outil de la sorte peut soutenir les filières d'économie circulaire locales au cœur des territoires qui peinent parfois encore à se structurer?
Alors, il y a un élément qui est majeur dans l'économie, mais majeur. Je viens du monde de l'entreprise. On fonctionne à l'indicateur. Et là, c'est ce qui va être mis en place. Un indicateur supranational qui est loin de l'opérationnalité des territoires, mais c'est un indicateur. Je vais finir en revenant sur la première question. C'est ce qui a manqué dans la loi anti-gaspillage ou en économie circulaire. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'engagement commun qui est demandé à la nation et à travers la nation à tous les acteurs, collectivités, entreprises notamment. Et donc, on est dans un business as usual avec peut-être du recyclage. Il va falloir en faire beaucoup plus. La captation de déchets pour la réinjecter, certes, mais il n'y a pas d'objectif sur notre relation à la consommation de ressources que nous avons dans notre modèle.
Eh bien écoutez, François-Michel Lambert, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour cette émission spéciale Économie circulaire, émission des villes et des hommes sur Radio Immo. Je rappelle que vous êtes le député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône ainsi que le président de l'Institut national de l'économie circulaire. Je vous remercie encore une fois, François-Michel Lambert, d'avoir été avec nous ce matin.
Alors, je ne vais pas relancer Nathalie Boyer, qui est notre ambassadrice économie circulaire, sur l'avis qui a été exprimé, mais enfin, vous voyez que nous sommes ouverts à tous les avis, parce que la loi AGEC reste très positive. Bon, mais ce n'est qu'une étape. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que nous avons là un éminent représentant de l'Assemblée nationale qui s'est beaucoup impliqué dans l'économie circulaire et qui considère qu'on en a encore sous la pédale, si vous me permettez l'expression, puisqu'il réclame des indicateurs chiffrés, avec peut-être plus de seuils maximaux en termes de consommation de ressources. Ce que je retiens aussi, c'est que finalement, on est quasiment dans la philosophie politique, puisqu'on nous invite vraiment à repenser le modèle économique global, hein, pour intégrer la refonte complète du cycle actuel qui pousse à surconsommer toutes ces ressources. Et franchement, l'économie circulaire, c'est un sujet d'organisation de la société et de philosophie politique. Je finirai quand même sur deux compléments, parce qu'on n'en a pas parlé, et ça serait pas juste de rappeler quand même que le plan de relance français est centré sur la transition écologique et qui met de l'argent frais dans la balance. Alors, 500 millions d'euros, certains diront que c'est peu au regard des 100 milliards d'euros du plan de relance, mais enfin, c'est quand même 500 millions d'euros qui ciblent le réemploi, le recyclage et la réduction des plastiques. Et puis, moi, je voudrais quand même ajouter un mot sur l'objectif européen du Green Deal. Monsieur le député disait que c'était loin de l'opérationnalité. Permettez-moi aussi, Nathalie, de ne pas être d'accord. Vous n'étiez pas d'accord sur son avis sur la GEC. Moi, je ne suis pas d'accord sur son avis sur la taxonomie. Moi, je considère que l'Europe est en train de reprendre la main sur le développement du marché unique en se distanciant un petit petit peu de l'objectif unique de libre-échange pour réellement orienter les investissements publics et privés vers des technologies et des activités plus durables et de donner des clés de lecture aux investisseurs en fonction des objectifs de développement durable. Je citerai quand même que parmi les 6 critères environnementaux identifiés pour être éligible à la taxonomie verte, il y a l'économie circulaire. Donc elle apparaît en tant que telle, au même titre que la lutte ou l'atténuation du changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, l'économie circulaire est l'un des 6 critères et que les entreprises sont directement concernées, FH est directement concernée, puisque nous devrons publier la part de notre chiffre d'affaires qui contribue à atteindre ces 6 objectifs ensemble ou pour chacun d'entre eux. Et c'est une décision fondamentale pour la transition écologique, mais la taxonomie fera l'objet d'une prochaine émission. Il me reste à vous remercier, Bruno Cahen, Nathalie Boyer, merci.
Merci Valérie.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.